Le dernier vendredi de chaque mois dans l'émission Crème de la Crème sur Canapé, vous le savez maintenant, c'est Champ Libre A. On va à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et on laisse carte blanche à une artiste pour aller nous ramener quelques documents. Aujourd'hui, eh bien, on va parler à plusieurs personnes en même temps. Son vrai nom, c'est Grégory Aron. Bonjour.
Bonjour Yann.
Mais vous le connaissez aussi peut-être sous le nom de Grégaldur ou encore sous le nom de Aron Cendré. On se baladera de Sonic Youth à Alain Goraguer en passant évidemment par Aron Cendré lui-même ou bien par Brian Eno dans ces 45 minutes où il nous fait entendre ce qui l'émeut au plus haut point. À part ça, eh bien, on écoutera une dernière fois cette année aussi les morceaux de choix proposés par Ronan Chaplin. Ça reviendra en 2024. Aujourd'hui, c'est Félicie qui nous parlera de Radiohead et puis on retrouve dans quelques secondes pour débuter Crème de la Crème, la dernière occurrence de la machine à remonter le son numéro 49, consacrée pour la cinquième fois cette semaine à l'année 1978. Je vous en reparle. Bonne émission.
Ah bon?
Ah oui. Push it out, push it there. Take your radio in your life. Take your radio in your love.
À l'instant, le groupe suisse Kleenex, qui se sont appelés comme ça de 1978 à 1980. Après, elles ont dû changer de nom et devenir Lilliput. Ces musiciennes qui avaient bien entendu les Slits en Angleterre quelques années auparavant et qui ont anticipé un peu le mouvement Riot Girls, en tout cas des États-Unis des années 80-90. Kleenex avec cet excellent titre issu de leur tout premier single en 1978. Le titre Ain't You. À suivre, Chant libre à Grégory Héron. Vous le connaissez aussi sous le nom de Greg Aldur et de Héron Cendré. Je remercie encore une fois pour cette quatrième Chant libre à Clarisse Mérour de la Bibliothèque des Chants Libres et Antoine Blanchet des Chants Libres pour nous avoir aidé à préparer et à réaliser cette discussion avec Grégory Héron. Le dernier vendredi de chaque mois dans l'émission Crème de la Crème sur Canapé, vous le savez maintenant, j'espère que c'est un rendez-vous pour vous, c'est Champ Libre A. On va à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et on laisse carte blanche à une artiste pour aller nous ramener quelques objets culturels, quelques documents sous la forme de DVD, de disques, de CD ou vinyle d'ailleurs, de bouquins. Aujourd'hui, on va parler à plusieurs personnes en même temps. Son vrai nom, c'est Grégory Héron. Bonjour.
Bonjour Yann.
Mais vous le connaissez aussi peut-être sous le nom de Greg Aldur ou encore sous le nom de Héron Cendré. Et parfois, tu utilises même ton vrai nom. Ça c'est quand tu ne sais plus quoi choisir.
Ouais, Grégory Héron, c'est un peu intellectuel en fait. Je sais pas si je dois faire de la musique sérieuse, drone. Ça sera Grégory Héron. Si je fais des installations sonores, ça sera Grégory Héron dans l'art contemporain.
Et c'était Héron Cendré au festival Maintenant. Tu jouais justement au Champ Libre le 6 octobre dernier. Alors, c'était moins sérieux.
Ça l'était quand même. Non, c'était bien chouette, ouais, parce que c'était pas forcément un public habituel, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'abonnés du Champ Libre. Donc il y avait peut-être un peu plus de cheveux gris que d'habitude dans le public, mais c'était vraiment une belle date parce qu'il y avait une écoute qui était parfaite et les conditions d'accueil étaient très très chouettes.
La musique de Héron Cendré, puisque c'est toi qu'on invite aujourd'hui, même si on évoquera peut-être aussi celle de Grégory Héron, elle est faite comment exactement? Elle naît dans ton cerveau à un moment, mais comment toi tu la transformes en son pour les spectateurs?
En fait, plus le temps passe et plus... Je dirais, j'assimile des nouveaux sons. Comment dire, j'ai commencé vraiment moi par le rock indépendant. C'était vraiment ma principale source d'influence. Et au fur et à mesure, plein de musiques sont venues nourrir ça. Et en fait, un peu à la manière d'un artiste art brut, moi, je vais piocher à droite à gauche et je le fais. J'ai l'impression à ma façon. J'essaie de recopier, mais à chaque fois c'est un peu foireux. Et du coup, ça crée, je pense, une musique plutôt originale. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on me dit ça assez souvent.
On en parlera peut-être un peu plus en fin de discussion tout à l'heure de la musique d'Héron Cendré, parce qu'on écoutera d'ailleurs un titre de ta création. Mais avant ça, on va voir comment toi tu es arrivé à devenir celui qui fait de la musique sous le nom de Héron Cendré ou Greg Aldur. Grégory Héron. Alors, peut-être tu n'as pas eu toujours l'habitude d'aller pousser la porte d'une bibliothèque pour aller y trouver de la musique ou des disques ou des films en cassette vidéo à l'époque, peut-être, je ne sais pas, et des bouquins. C'est pas une expérience que tu as vécue très souvent, ça?
Non, pas vraiment. Moi, je crois que j'étais un peu plutôt cancre à l'école. Je pense que ma culture musicale, moi, elle est vraiment née dans les bars, pendant les sorties. Et je crois vraiment que c'est... Donc il y a une période collégienne quoi où à l'époque je me souviens mes copains de troisième allaient plutôt écouter Nirvana ou les Red Hot. Moi je sais que j'étais encore un peu bloqué sur le rock alternatif français donc j'écoutais TFN, j'écoutais les Vampass et c'est un peu plus tard je crois même un certain jour d'avril 94, où je me souviens mon père qui frappe à ma porte pour m'annoncer la mort de Kurt Cobain. Et ouais, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter pas mal de rock indé. Et ensuite, ouais, toute la culture, c'est, je pense que ça correspondait à mes sorties le samedi soir. Des copains à Cherbourg qui revenaient du festival Reading, donc qui allaient me parler de Teenage Fan Club ou de Pavement.
Parce qu'il y avait déjà l'influence importante de l'Angleterre pas loin.
Ouais, c'est vrai qu'au lycée, nous, on avait cette chance d'avoir des navettes à 10 francs où on pouvait prendre le bateau le mercredi après-midi. On buvait des bières pendant le trajet et puis on allait à la Fnac choper le dernier Alice in Chains ou les dernières nouveautés grunge qui n'étaient pas encore sorties en France. Donc on a eu un peu cette chance à Cherbourg. C'est quand même plutôt une malchance de grandir à Cherbourg. Mais
finalement, il y a quand même quelques petits avantages de temps en temps. Alors toi, tu n'es pas allé forcément dans ces festivals, le festival de Reading, voir Nirvana, Mudhoney et toute la vague grunge à l'époque.
Non, pas du tout. Hein. Moi, j'ai vraiment pris mon temps. Je pense que mes premiers concerts, alors hormis un concert de TFN en 92, à Cherbourg, on a eu une asso qui s'appelait Atagato Music à l'époque, qui a vraiment programmé des concerts bien DIY et qui, moi, m'ont vraiment ouvert les yeux. Après, j'ai souvenir qu'en fin de lycée, on prenait la voiture avec les copains, et on allait voir les concerts Cafuel à Rennes. Et ça, c'était fin 90, je pense. Ouais.
Alors toi, tu as joué dans des groupes qui n'étaient pas des groupes d'imitation ou de reprise des groupes américains ou anglais.
Ouais, bah, en fait...
Plutôt américain, d'ailleurs.
avec les copains au lycée, je pense qu'on a monté nos groupes, mais c'est vraiment resté à une échelle très, très locale. Je pense que c'est un peu plus tard... début 2000, quand j'ai commencé Grégaldur, que j'ai vraiment commencé à voyager et à me retrouver en tournée avec des groupes voilà, qui étaient hyper intéressants. Et on était comme une espèce de petite famille dans une certaine forme de musique underground.
Là, on va écouter ta première sélection musicale. On va donc se balader dans les goûts musicaux, surtout, mais pas que, de Héron Sandré. On parlera de quelques bouquins. Tu évoquais Kurt Cobain tout à l'heure. Eh bien, il reviendra tout à l'heure, peut-être, ou pas. Mais en tout cas, je vois un album de bande dessinée là qui porte ce nom-là. On va écouter un extrait d'un album avec une pochette qui peut-être t'a excité déjà l'imagination, rien que la pochette avec cette espèce d'animal en tête de chaussette, comme ça, l'album Dirty.
Dirty de Sonic Youth, oui. Comme je disais, ouais, c'est vraiment à l'adolescence la découverte de ces groupes indés américains, et Nirvana sûrement en tête. C'est sûr que ça a été un électrochoc quand même pour toute une jeunesse dans les années 90. Et là, je parle de la scène américaine, mais je pense que même la scène Britpop m'a tout autant influencé dans les années 90, quoi.
Attack and fire is the song I hate.
Against Fascism à l'instant, Kim Gordon et les autres, l'Irnaldo de Sonic Youth, sur l'album Dirty en 1992, qui est peut-être pas la révélation pour toi, c'est peut-être un peu plus tard que tu écouteras Sonic Youth, mais à l'époque où tes camarades d'école écoutent les Red Hot ou Nirvana, il y a un petit côté un peu plus sale finalement chez Sonic Youth quand même.
Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense aussi c'est le côté, rebelle en fait. Et c'est clair que. Un personnage comme Kurt Cobain, il nous a tous remués, quoi. Et ce qui est chouette, en fait, c'est qu'il y avait vraiment dans toute cette génération de groupes des années 90, y avait vraiment des individualités. Même un Radiohead ou... où les Oasis et Blur, en fait, ça avait beau être des jeunes cons, en fait, on les aimait, quoi, parce que ils avaient vraiment un tempérament à foutre le bordel, quoi. Et ça nous faisait du bien.
Ouais, finalement.
Et on avait envie de faire la même chose.
Et vous faisiez pas vraiment la même chose, mais quand même, toi, tu jouais de la basse, de la guitare dans des groupes.
Moi, je sais qu'avec les copains au lycée, on a été vachement influencés par le Velvet aussi. Mais du coup, c'était aussi des rebelles. Et je crois vraiment que ouais, toute la source d'influence des années 90, c'était des gens atypiques, des gens un peu bizarres. Parce que certes, il y a le grunge, mais il y a aussi... ce qu'on peut appeler le rock outsider, où moi, Daniel Johnston m'a vachement marqué. Et à Pavement, c'était pas vraiment... pour moi, c'était pas forcément des musiciens, mais simplement, ils vivaient leur truc. Donc ça jouait un peu faux, ça jouait dissonant, et c'est ce qu'on aimait, quoi.
Combien de temps tu vas mettre, toi, à te dire « Tiens, mais je ferais bien de la musique tout seul ». Au début, non, il faut être avec les potes, il faut jouer dans un groupe.
Ouais, c'est ça, ça a pris un certain temps, quoi. Il y a d'abord le groupe de lycée, après, je sais que fin 90, avec des copains, on a monté un label de noise rock qui s'appelait Wolfsbrain Records. Donc on a fait quelques sorties, il y avait des groupes assez chouettes, mais très influencés par tout ce que pouvait programmer Cafuel sur Rennes. Mais je sais pas, moi, je sais que j'avais. Quand j'étais sur scène, j'étais plutôt en groupe, donc j'étais plutôt à côté des toilettes, tu vois, un peu en retrait. Et il y a un jour, je crois que c'était en 2004, il y a un patron de bar à Cherbourg qui m'a proposé de jouer, et à ce moment-là, tous mes copains étaient en déplacement à l'étranger. Ils n'étaient pas dispo, et je me suis retrouvé seul sur scène. Et c'est à partir de là que tout a commencé avec Greg Aldur. Et très rapidement, j'ai commencé à rencontrer des musiciens normands, puis bretons, et les tournées ont commencé.
Là, je vois commencer à saisir l'album dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Kurt, et qui est justement fait par un dessinateur normand.
Oui, la vie est trop Kurt. On y voit Kurt Cobain, la tête décapitée, avec un t-shirt « I, how are you » là, Daniel Johnston. Ouais. Et donc David Snug, qui de son vrai nom s'appelle Guillaume Cardin. Ça a été, un des premiers types avec qui j'ai commencé à faire des tournées. Il m'a fait souvent jouer à Paris. Donc à l'époque, il y avait un label qui s'appelait Boudu Records à Caen. Et c'était vraiment une petite famille où moi j'ai commencé à rencontrer tout le monde. Donc il y avait les Gablés parmi cette scène bas normande, quoi. Et au départ, j'ai rencontré cette petite famille normande, et c'est par la suite que j'ai rencontré la petite scène bretonne, puis lyonnaise. Enfin, très rapidement, en fait, ça, c'est mon champ de copains s'est élargi. Et...
Mais tout de même, au début, tu vas, avant de jouer dans des smacks, jouer plutôt dans des squats, dans l'arrière-salle d'un bar, des choses comme ça.
Ouais, c'est ça. Au départ, c'était vraiment principalement dans les réseaux underground, milieu associatif. Ouais, j'ai tourné avec beaucoup de groupes, j'ai fait vraiment beaucoup de concerts et les smacks, c'est venu. Ouais, c'est vraiment. Souvent, c'était les copains qui m'invitaient. Je pense à ma première venue à l'Antipode à Rennes, par exemple. C'était les Gablés qui avaient une carte blanche. Et j'ai fait quelques smacks. Je sais que j'ai été invité en première partie de Philippe Catherine. Ça devait être en 2010, je crois. À une période où, pour lui, ça cartonnait. Moi, je sais que la veille de cette date, j'étais dans un squat en Belgique. Et oui, il y a eu beaucoup de concerts, quoi, et beaucoup de rencontres, notamment avec des gens du dessin.
Parce que toi, tu dessines aussi.
J'ai dessiné, mais qu'une année dans ma vie. C'était il y a 5 ou 6 ans, je crois. J'ai fait quelques expos. J'ai fait quelques dessins qu'on buzzait, notamment...
Le fameux dessin du poteau.
Voilà, le plan de l'Ubu, vu du dessus.
Et donc une carte postale avait été éditée et c'est vrai qu'elle avait fait marrer pas mal de monde, aussi bien des artistes qui avaient joué à l'Ubu que les spectateurs rennais ou ceux qui venaient de temps en temps dans la capitale bretonne, avec ce fameux poteau qui empêche pas mal de monde de voir un peu ce qui se passe sur la scène. Mais ça c'était vraiment une sorte de blague finalement.
C'était une blague, ouais, qui a fait rire beaucoup de monde, peut-être pas Jean-Louis Brossard. Mais...
et la vie Snugs que tu évoquais à l'instant, c'est vrai, la vie est trop courte, c'est aussi la moitié de Trotskino. David Snuggs.
Oui, c'est ça. Et il a eu plein de projets très obscurs. Fraîcheur concombre. Ouais, j'aime bien parce que c'est un peu notre Daniel Johnston à nous.
On va poursuivre avec un groupe rennais, mais qui a été à Clermont-Ferrand avant, qui a disparu, mais qui joue dans quelques autres projets parallèles sans doute. Et il commençait ses aventures en 2005, peut-être pas à ce moment-là que toi tu les découvres, mais
à ce moment-là.
Dès le tout début. Alors qu'est-ce qui t'a séduit d'emblée chez le trio La Terre Tremble ?
Voilà, La Terre Tremble, en fait, ouais, on a fait plusieurs tournées ensemble et. Il y a plein de choses qui nous rattachent, quoi. Par exemple, leurs disques, la plupart, ont été enregistrés au studio Chaudeland. Et Chaudeland, c'est un studio à côté de Cherbourg où moi, c'était un peu ma deuxième famille, quoi. Et en fait, j'ai vraiment aimé l'évolution du groupe. Où, au départ, c'était principalement un trio de guitare. Et au fur et à mesure, ils ont intégré des synthés. Et voilà, c'était un bonheur de tourner avec eux et d'écouter plein de disques, plein de musique dans les camions, quoi.
ce champ libre à Héron Cendré aujourd'hui pour terminer l'année de Crème de la Crème en beauté, puisque oui, c'est la dernière émission de l'année. On se retrouvera en janvier dans deux semaines. Eh bien, on entend beaucoup de musique. Tu as fait un choix surtout musical, c'est vrai, Greg, du côté de l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. C'est ça le principe de Champs Libres à une heure à peu près, un peu moins, un peu plus, ça dépend, pour choisir quelques documents qui t'ont frappé depuis longtemps, soit que tu as vu et tu t'es dit « ça, j'ai envie d'en parler un petit peu ». C'est plutôt cette deuxième option-là que tu as choisi. Ainsi, celui qu'on écoutait à l'instant, t'aurais pu ramener ton exemplaire de chez toi, mais non, tu l'as trouvé au Champs Libres, donc t'avais envie qu'on parle de ce disque de Brignino.
Oui, parce que je pense que pendant tout un temps, et quand j'ai joué Greg Aldur, en fait, je pense vraiment que mes héros, c'était les copains quoi, de l'underground. Quoi, et un jour, je me suis dit « ouais, il y a quand même d'autres choses et il y a peut-être une musique à aller chercher quoi et Brian Eno forcément je pense que il est très connu quoi du grand public. Après ce disque Another Green World, je le découvre sur le tard et en fait je me rends compte que c'est un album qui est essentiel quoi dans la culture pop, dans la musique ambiante et je pense que c'est peut-être l'album moi qui m'a fait un peu arrêter Greg Aldur, où il y a un moment j'ai sauté partout sur mes pédales vraiment à faire du rock bizarre complètement déstructuré, et je crois qu'il y a un moment j'ai voulu me poser et j'ai commencé à écouter des musiques beaucoup plus ambiantes, atmosphériques, un peu plus expérimentales. Mais en tout cas, ouais, cet album de Brian Eno, pour moi, c'est un grand disque.
Tu as amené un bouquin sur les musiques un petit peu expérimentales. Ça, par exemple, ça peut être aussi une source où tu te dis, tiens, je connais ce musicien-là, mais je ne connais pas les autres. Je vais aller fouiller un petit peu de ce côté-là.
Ouais, en fait, j'ai ramené l'underground musical en France, qui est sorti chez Le Mot et le Reste. Et c'est vraiment une maison d'édition, moi, que j'ai... J'ai vraiment lu beaucoup d'ouvrages. Je pense par exemple à celui d'Amaury Cornu sur Moondog. Mais il y en a plein sur des musiques expérimentales. Et là, j'ai ramené l'underground musical en France. Je pense que c'est un petit clin d'œil parce qu'il a été écrit par Eric Dehé et Dominique Grimaud. Et Eric Dehé, c'est une personne que je croise souvent au concert à Rennes. Et c'est assez drôle parce que c'est quand même... je dirais les vieux darons de la musique underground.
Là, on va plutôt parler de Magma que de Brignino, ouais, du coup.
Ouais, c'est ça. Il y a peut-être juste la conclusion où finalement, il parle de la nouvelle génération. Et là, ça me parle beaucoup plus parce que c'est pas mal de groupes avec qui j'ai tourné justement de 2005 à 2015. Quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr qu'il y a énormément à découvrir dans tout ce qui a été fait dans les années 80, dans les années 70. Voilà, il y a Brian Eno, mais il y en a plein d'autres. Je pense aux musiciens minimalistes, à Terry Riley.
Ou Steve Reich.
Ou à Steve Reich.
Justement, tu as un livre de Steve Reich. Et justement, c'est eux qui t'ont donné envie un peu moins de sauter partout, comme tu le disais, sur tes pédales d'effet, et de te poser un petit peu et de plus t'amuser aussi à essayer des choses que tu connaissais pas du tout.
Je suis allé chercher des nouveaux instruments, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec le synthé modulaire et en fait je me suis rendu compte du pouvoir qu'ont certains instruments en fait à aller piocher des sons qu'on va pas trouver sur des instruments classiques.
Ouais, l'idée aussi de vraiment faire une musique nouvelle quoi, pour toi aussi. Surtout pour toi, peut-être, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Je pense à Steve Reich. C'est une musique très intelligente, qui est très écrite. Maintenant, il y a des séquenceurs permettent de faire ça. Et c'est pas nouveau, les séquenceurs. Mais en tout cas, d'aller piocher des références de musique savante et de l'intégrer dans une musique contemporaine qui peut être un peu sali, moi je pense que j'aime ça, quoi, salir les sons. Et voilà, ces musiciens des années 70, moi, m'inspirent vachement. Et j'ai l'impression que c'est en allant chercher c'est dans ces vieux albums qu'on peut créer quelque chose de nouveau aussi.
Vous le savez, Jean Libre, c'est 45 minutes seulement, ça passe très très vite et on va continuer en musique. Il y a des pièces très longues qu'a choisi Héron Sandré, on les écoutera qu'en extrait, ça va être le cas dans un instant, mais avant ça peut-être un extrait d'une bande originale qui t'a un peu frappé dans l'œil comme ça quand tu l'as vu dans sa version vinyle à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres. C'est quoi cette BO et pourquoi tu l'as choisie? Pas forcément seulement pour la musique, il me semble.
Ouais, non, j'ai choisi la bande son de la planète sauvage, donc c'est Alain Goreger, mais c'est aussi tout un univers visuel, c'est Roland Topor. Pour moi, ça m'évoque plein de choses et peut-être que justement, là, ça me replonge en enfance où, gamin, je regardais Téléchat et cet univers un peu décalé de Topor, finalement, eh ben, j'ai l'impression que c'est, qu'il est ancré en moi et que c'est un vieux souvenir, en fait, qui est... Même si le film La Planète Sauvage, je l'ai découvert sur le tard. En tout cas, c'est une esthétique qui, pour moi, me renvoie à mon enfance dans les années 80.
Un morceau un peu connu quand même, hein, ce bracelet extrait de la BO du film La Planète Sauvage, La Loue et Topor. Des choses un peu pop, un peu groovy en même temps sur cette BO-là. Là, on va changer d'ambiance complètement sur une très longue pièce dont je suis un peu désolé de n'en passer qu'un extrait. Meredith Monk, là, ça change vraiment.
Ouais, alors c'est vraiment une pièce que j'adore. Et en fait, c'est un souvenir de l'année dernière où j'ai vu Meredith Monk à la Philharmonie à Paris. Et en fait, ça a été vraiment ma claque musicale en concert, quoi. Et Meredith Monk, maintenant, elle est âgée de 80 ans, donc c'est une chorégraphe, mais elle chante, elle est musicienne aussi, elle a sorti des disques. Vraiment, quand je fais le bilan, moi, des concerts que j'ai vus en 2022, s'il y a vraiment deux concerts à retenir, c'est Suzanne Ciani, qui fait de la musique électronique, et qui, je pense, a pas loin de 80 ans aussi.
Et qui sort un album tout récemment avec Jonathan Fitoussi.
Oui, avec Jonathan Fitoussi, tout à fait, sur Transversal Disc. Et Meredith Monk, c'est vraiment deux femmes, moi, qui... leur musique me touche. Et sur scène, je me suis pris une bonne grosse calotte. Et ça fait du bien.
Pardonnez-moi si je ne vous fais pas entendre toute cette pièce qui dure près de 20 minutes sur Turtle Dream. C'est celle qui ouvre cet ensemble de compositions de Meredith Monk, choisi donc par Héron Sandré.
I went to the stars, so I went.
Meredith Monk, à l'instant choisi par Aaron Sandré, un extrait de Turtle Dreams, sous-titré Waltz, qui ouvre donc cet album. On est en ce moment en train de changer complètement encore. On n'arrête pas, on suit un petit peu les envies musicales de Aaron Sandré, avec une collection de musique contemporaine, expérimentale. Vous pouvez pas les rater, ces vinyles-là, si vous les voyez dans une bibliothèque, parce que la pochette est splendide.
Ouais, donc c'est toute une collection qui s'appelait Prospective du 21e siècle, et c'est le label Philips, je crois, qui les avait sortis. En tout cas, il y a toute une série de disques de musique concrète. Alors là, j'ai choisi un des vinyles que je ne connais pas, mais voilà, c'est sur donc il s'appelle Japanese Electronic Music. Moi, je sais que je suis pas insensible à la musique expérimentale japonaise. Il y a dans la scène noise, je pense à Boredoms ou des vieux labels bien obscurs, Vanity Records, des groupes très obscurs eux aussi, Peaky Picnic, enfin il y a plein de groupes japonais que j'ai écoutés, et là je suis tombé sur cette pochette. Moi j'ai quelques vinyles, notamment de Yanis Xenakis ou des percussions de Strasbourg, où c'est cet effet utilisé sur ces pochettes. Alors, ça a un nom, j'ai complètement oublié.
Il y a un côté art optique un petit peu, art cinétique. Pierre-Henri aussi a sorti des disques dans cette collection-là.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais.
En tout cas, on va écouter une pièce, un extrait seulement d'une pièce de Toshiro Mayuzumi intitulée Mandara. Et puis, je pense qu'elle va se mélanger assez facilement avec un titre de Aaron Sandré qu'on écoutera juste après pour terminer la discussion. Thank you. disque assez mystérieux. Il est vert, avec des points, comme une trame, vous voyez, un peu pop art, mais on voit pas trop ce qu'il y a dessiné en dessous. Tu vas peut-être nous dire que c'est un héron. Oui, c'est un héron. Un héron cendré, d'ailleurs, c'est l'album de Héron Cendré, un extrait qui se mélangeait un petit peu avec la musique japonaise de Mayuzumi tout à l'heure. Ça, c'est assez récent, Greg ?
Alors, il est sorti en 2022, donc il y a un an exactement, sur un label belge qui s'appelle Molly Deltro. Et en fait, bah, c'est un peu une compilation, moi, de morceaux que j'avais mis sur SoundCloud il y a entre 4 et 5 ans maintenant. Et voilà, c'est une des premières fois où en fait un label vient me chercher en me disant, bah, nous, ce qu'on a écouté, ce que tu fais, on kiffe. Et on a décidé de te le sortir et du coup c'est assez chouette parce que j'ai pas eu de pression en fait à devoir enregistrer à tout prix.
Parce que c'était déjà fait quoi.
Parce que c'était déjà fait et je pense qu'à plusieurs reprises on m'avait demandé mais je crois que quand il y a une échéance ou quand il y a un objectif de résultat, ça me...
C'est vraiment un album qui rend compte d'une sorte de d'une mutation, d'une transformation de Grégaldur en Héron Cendré. C'est plus la même musique, mais c'est quand même la même personne qui est derrière. Et toi, tu la sens, l'évolution, au fur et à mesure des morceaux qui se rapprochent de nous ?
Ouais, bah complètement. C'est sûr que Grégaldur, il y avait un côté très enfantin, alors qu'on peut parfois retrouver sur Héron Cendré. Mais en tout cas, c'est pas du tout la même conception. C'est vraiment. Je pense que là, ça tient vachement aux humeurs, en fait. Héron Cendré, ouais, c'est. Un jour, ça peut être une piste de synthé modulaire, mais le lendemain, ça va être des expérimentations autour de field recording, de programmation. Et en fait, ça ressemble plus pour moi à du collage, en fait. C'est du collage sonore.
Et c'est en tout cas une sorte de boîte à outils comme ça, ou de coffret à jouets, mais t'es pas obligé d'utiliser tout le temps tous les outils ou tous les jouets, quoi. Tu choisis au fur et à mesure.
C'est un peu ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a vraiment plein d'atmosphères différentes, quoi, sur ce disque, mais finalement, il y a toujours un petit truc pour rendre la chose assez cohérente.
Bon, c'est en tout cas un extrait de la pièce 3. Pure 5 qu'on écoutait et qui va nous aider à terminer ce champ libre à Héron Cendré. Il y aura probablement une suite à ce disque-là. Ça sera plutôt plus tard. On verra.
Ouais, en 2024.
En 2024,
j'espère.
Tout de ouais. même. Vous aurez l'occasion peut-être aussi de voir Grégory Héron, cette fois dans le cadre d'une pièce de théâtre comédie musicale avec le Bob Théâtre. Bon, ça, c'est, à mon avis, vous la jouez plus beaucoup, celle-là.
Non, ça va rejouer à Créteil en 2024. Mais...
Et puis Grégaldur, là, c'est vraiment fini.
Après, je continue à faire des spectacles avec le Bob Théâtre. Du coup, c'est des spectacles de Grégaldur.
Et puis, Gabusomeux, donc ça, c'est Grégaldur. C'est aussi les Shadok. Mais c'est aussi le Gabusomix sur Canal B avec Marc de Blanchard. Je pense que vous êtes tous les deux fans du même univers. Donc de temps en temps, vous entendrez aussi du Héron Cendré ou même du Grégaldur, peut-être dans l'émission Gabusomix.
Ouais, il m'avait invité, Marc.
Merci beaucoup, Grégory Héron.
Merci, Yann.
Merci beaucoup, Héron Cendré. Et merci beaucoup, Grégaldur. Je vous remercie tous les trois d'être passés ici dans Champ Libre A. On a fait 3 émissions en une et moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'était un extrait assez long du titre 3 sur 5 de Héron Cendré. Vous l'avez entendu grâce à ce chant libre numéro 4, chant libre à Grégory Héron, en partenariat avec la Bibliothèque des Chants Libres. Merci encore une fois à Clarisse Méour de la Bibliothèque des Chants Libres et puis à Antoine Blanchet des Chants Libres pour nous avoir aidé à faire cette balade au deuxième étage de la Bibliothèque des Chants Libres avec Grégory Héron. Crème de la Crème se termine cette année avec, encore une fois, comme tous les vendredis d'ailleurs, les morceaux de choix proposés par Ronan Chaplin. Et aujourd'hui, il nous fait entendre le choix de Félicie qui a été renversé par le titre Karmapolis de Radiohead.
Morceau de bravoure. Cacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Porter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Mon morceau, c'est Karmapolis de Radiohead sur l'album OK Computer. Version acoustique. Karmapolis, restless man, it talks in my, it buzzes like a fridge, it's like a... C'est un morceau sur lequel je retombe toujours. Il m'arrive très souvent d'avoir envie d'écouter de la musique dans certains moments. Et puis je sais pas pourquoi, il y a toujours un moment où je retombe systématiquement sur ce morceau qu'en fait j'ai envie d'écouter. Une vie quand même assez chargée, assez mouvementée, et très souvent pour me retrouver moi, pour me reconnecter à moi, j'ai besoin d'une bulle. Parfois elle peut être silencieuse, et puis parfois je sais pas, j'ai envie de musique, soit pour me connecter en fait à certains titres que j'aime, soit pour m'évader, pour chanter, parce que je chante souvent sur les titres que j'écoute, parfois pour danser. Et puis Karmapolis, en fait, c'est un titre qui me permet vraiment de me reconnecter à moi, à mes émotions, et qui me fait me sentir mieux après l'avoir écouté. En fait, il y a un moment dans le morceau où vraiment Thom Yorke, il y a une montée. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme si pour moi, il y avait... Ah, je dépose tout ce qui était lourd là dans mon ventre et je m'autorise à le déposer. Et moi, c'est comme ça que je le ressens. Et à chaque fois que j'entends ce morceau, ça me fait la même chose. Je sens vraiment une vraie libération. La voix de Thom Yorke, c'est une voix que je sens complètement habitée en fait. Évidemment qu'il y a de la technique, mais c'est pas ça que qui me touche quand je l'entends. C'est vraiment Thom Yorke, je sens vibrer dans ce qu'il chante. Il est complètement habité par ce qu'il chante. Et moi, quand j'entends sa voix, ça, c'est comme si ça entrait directement dans mon ventre et qu'en fait ça touche totalement les émotions sans qu'elles aient besoin d'être intellectualisées, d'être protégées par... par une pensée ou quelque chose, c'est que ça vient tout de suite et en fait ça me permet de lâcher prise et d'être en connexion totale avec moi et avec sa voix.
Merci à Ronan Chaplin et puis surtout merci à Félicie pour ce morceau de choix. Ils reviendront, les morceaux de choix, en 2024, tout comme Crème de la Crème et tout comme les Champs Libres A. Ce sera tous les derniers vendredis du mois. Retrouvez bien sûr pendant ces deux semaines de pause Canal B sur canalb.fr et puis en FM sur 94 MHz et puis aussi en DAB+. Retrouvez-nous en tout cas pour un retour aux affaires le 8 janvier 2024. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne fête si vous en avez. Bonne chance si il vous en reste encore un petit peu. Et puis bon espoir aussi que la lumière revienne. À bientôt. Ciao.